Les studios de la Vitorine sont nés à Nice en 1919, un siècle d'histoire durant lequel ils ont tout connu. Gloire, destruction, liquidation, rachat, décrépitude et oubli. Aujourd'hui, Christian Estrosi, maire de Nice, promet de leur faire retrouver le haut de l'affiche. Laissés à l'abandon, nous avons la volonté d'offrir aux studios de la Vitorine un futur à la hauteur du faste passé. Sur son compte Facebook, Christian Estrosi annonce la couleur. Une ère nouvelle s'ouvre pour ce lieu au destin tourmenté. Tout débute en 1919. Deux producteurs français, Louis Nalpas et Serge Sandberg, sont à la recherche d'un terrain apte à accueillir de nouveaux studios de cinéma. Ils jettent leur dévolu sur le domaine de la Vitorine, du prénom de la nièce du propriétaire, Victor Masséna. Situé à l'ouest de Nice, l'emplacement est immense, 7 hectares, et devient l'un des principaux lieux de tournage en France. En 1924, les propriétaires rencontrent déjà des problèmes financiers et cèdent les studios à Rex Ingram, un réalisateur venu des États-Unis. Celui-ci rêve de faire de ces lieux un nouvel Hollywood. Des brochures le présentent même comme le Hollywood européen. Les équipements sont modernisés et deviennent une référence dans le monde du cinéma. La Vitorine connaît une période faste et prospère, l'obligeant même à refuser des demandes. Vers 1930, l'avènement du cinéma parlant va rebattre les cartes et les studios niçois vont perdre leur superbe. Ils seront cédés à Gaumont en 1932, mais il faudra attendre la période de l'occupation pour qu'ils connaissent une nouvelle époque historique. Alors que l'armée allemande marche sur Paris, le petit monde du cinéma afflue sur la Côte d'Azur. Des films remarquables y sont alors tournés, parmi lesquels « Les visiteurs du soir » de Marcel Carnet, « L'éternel retour » de Jean Delannoy et surtout « Les enfants du paradis » encore de Marcel Carnet. Après la guerre, les studios vivent une période trouble. Durant le conflit, les studios italiens Cinecittà, détenus par le pouvoir fasciste, en avaient pris le contrôle. À la libération, ils sont mis sous séquestre et deux plateaux sont détruits par un incendie. Dès lors, ces activités vont être chaotiques, alternant périodes fastes et longs mois sans activité. En 1950, l'État reprend la gestion des studios, avec l'engagement financier du groupe UGC. Le sud-est de la France est à nouveau sous le feu des projecteurs de l'actualité cinématographique. Alfred Hitchcock vient tourner La main au collet avec Cary Grant et Grace Kelly. Roger Vadim fait briller Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Jacques Tati fait revivre son monsieur Hulot dans Mon oncle. Malgré tout, les résultats financiers ne sont pas bons. Craignant l'acquisition des terrains par des promoteurs immobiliers, la ville de Nice les rachète en 1960 et les protège en les déclarant d'utilité publique. En 1970, un incendie détruit trois plateaux, qui seront remplacés par un seul plateau de 1270 m², faisant de lui le plus grand du pays. Les affaires reprennent en 1973 avec le tournage de La Nuit américaine de François Truffaut, futur Oscar du meilleur film étranger. En 1974, Mireille Darc, Alain Delon et Claude Brasseur viennent tourner Les Scènes de glace de Georges Lautner. Mais durant les années qui suivent, les cinéastes préfèrent les tournages à l'extérieur plutôt qu'en studio. Les années 80 sont tout de même marquées par le retour du cinéma américain avec notamment le tournage du film Le Diamant du Nil avec Michael Douglas. En 1999, le groupe franco-hollandais Euromédia est choisi par la mairie pour prendre en charge la gestion des studios, rebaptisé Studio Riviera. Durant les années 2000, il vivote, accueillant ici et là quelques productions françaises, Bryce de Nice et Bryce de Nice 3 en 2005 et 2016, et étrangères, Woody Allen pour Magic in the Moonlight en 2014. Mais l'activité reste décevante, une déception partagée par le maire de Nice. En conseil municipal, il critique ouvertement Euromédia qui, selon lui, n'a pas développé l'activité et modernisé les équipements comme nous aurions pu l'attendre. Résultat, en 2017, Christian Estrosi décide de la reprise en gestion directe des studios par la collectivité. Pour définir la nouvelle stratégie à adopter, il met en place un comité Vitorine composé de personnalités du cinéma parmi lesquelles Claude Lelouch, Costa Gavras, Michel Larocque, Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, Erich Klobock, président de Warner France, et Éric Garando, ancien conseiller culturel et audiovisuel de Nicolas Sarkozy, et président du CNC de 2011 à 2013. Un comité qui préconise de recentrer l'activité sur le cœur du métier, le cinéma, tout en laissant la porte ouverte aux séries TV et aux films publicitaires haut de gamme. Surtout, il juge indispensable la modernisation des équipements ainsi que la construction d'un plateau supplémentaire de 3000 m². Enfin, le studio devra être à la pointe de la technologie pour répondre aux demandes croissantes de production incluant des effets numériques dans leurs films. Au regard de l'état actuel du site niçois, le travail à réaliser semble colossal. Après les effets d'annonce, le maire de Nice doit désormais s'atteler à trouver des opérateurs privés pour financer un chantier estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Il devra ensuite attirer les maisons de production, plus sensibles à de faibles coûts de main-d'œuvre, dont ce n'est pas la qualité première de la Victorine, qu'à l'âge ou la réputation historique d'un site de tournage. Dans un marché des studios cinématographiques où la concurrence est à minima à l'échelle européenne, la Victorine devra probablement partager l'affiche avec d'autres studios. Un partenariat à l'échelle régionale, notamment avec le site de Martigues, est ainsi évoqué. Malgré ses 100 ans et une vie qui n'en ressemblait en rien à un long fleuve tranquille, les studios de la Victorine font l'objet de nombreux projets ambitieux et avant-gardistes. Hollywood n'a qu'à bien se tenir.